Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En direct sur Radio Saféréole 94.2, l'émission qui compte. En direct le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique. Chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Demain commence la semaine de la nature. Alors nous allons anticiper un peu et aujourd'hui nous allons jardiner ensemble. Et pour commencer, intéressons-nous au sort d'un jardinier. Il était une fois un roi d'Arménie. Dans ses jardins se trouvait une roseraie. Et dans la roseraie, il y avait un rosier. Oh, un rosier qui ne payait pas de mine, un rosier chétif. Et pourtant précieux entre tous, le rosier Anarakan. Dans les livres était écrit, « Sur le rosier Anarakan, un jour viendra une rose, et cette rose donnera au maître du jardin l'immortalité. » Chaque matin de printemps, le roi descendait dans ses jardins. Il marchait jusqu'à la roseraie, il se penchait sur le rosier Anarakan et il inspectait chaque feuille. Il cherchait un espoir de bourgeon. Mais rien, il ne trouvait rien. Alors il se relevait furieux, il prenait au col son jardinier et il lui disait « Sais-tu ce qui t'attend si ce rosier ne fleurit pas cette année ? Eh bien, tu iras en prison, tu iras croupir dans un profond cachot jusqu'à la fin de tes jours. » Et c'est ainsi que chaque été, le roi changeait de jardinier. Mais au bout d'un moment, les jardiniers fuirent le royaume. Et le roi se retrouva à court de jardiniers. 5 ans passèrent, les mauvaises herbes envahirent les massifs, les limaces et les escargots se régalèrent. Le roi dépérissait dans son palais. Et voilà qu'un matin, un jeune homme se présenta. Il se disait jardinier et il prétendait pouvoir faire fleurir le rosier Anarakan. On l'introduisit aussitôt auprès du roi. « Je m'appelle Samvel, dit le jeune homme, et je viens pour faire fleurir le rosier Anarakan. » Le roi l'inspectait des pieds à la tête et il lui a dit « Mais tu parais bien jeune, sais-tu que beaucoup de jardiniers pleins d'expérience ont échoué dans cette tâche ? Et toi, qui n'es qu'un blanc bec, et sais-tu le sort qui t'attend si tu échoues dans ta mission ? La prison à vie ?» Le jeune homme a souri. « Majesté, je réussirai. Mon père m'a enseigné les 3 vertus principales du jardinier. Connaissance, vigilance et patience. Accordez-moi 3 printemps. Si à la fin du 3e printemps, le rosier Anarakan n'a pas fleuri, alors j'accepte de passer le reste de mes jours en prison. » Très bien, dit le roi, eh bien, qu'on le conduise à la roseraie. Et le jeune jardinier est allé jusqu'à son rosier. Il lui a parlé. Il lui a donné à boire, il a bêché la terre autour de son pied, il l'a nourri d'un terreau dont il avait le secret. Il l'a paillé pour l'hiver, il l'a taillé à la fin des gelées, a soigné ses feuilles. Il couchait au pied du rosier, il dormait à peine, comme un amant qui guette le réveil de sa bien-aimée. Quand le printemps est arrivé, le jeune jardinier a redoublé de vigilance. Jusqu'à une nuit fatale, où la fatigue l'a emporté sur la vigilance, le jeune homme s'est endormi. A-t-il dormi 1 heure ou 1 nuit ? En tout cas, à son réveil, vite, il a scruté le rosier. Là, peut-être là, y avait-il eu un bourgeon, mais en tout cas, c'était trop tard. Samvel s'est consolé. Et il lui restait 2 printemps, connaissance, vigilance et patience. Le roi a vu venir l'été avec agacement. Ce jardinier était un incapable comme les autres. Mais le roi aurait bien aimé l'emprisonner tout de suite, seulement il avait donné sa parole. 3 printemps. et il lui fallait attendre. Samvel a redoublé de soins. Il a arrosé, bêché, engraissé, paillé, taillé, veillé, dormi les yeux ouverts. Et le deuxième printemps, enfin, un matin, dans la clarté de l'aube, le bouton est là, scintillant de rosée. Samvel se précipite au palais, fait réveiller le roi. Ensemble, ils marchent jusqu'au rosier, à Nahakan. Le rosier est là, un peu moins maigrelet, mais le bourgeon tant attendu a disparu. Le roi est furieux. Samvel est déçu. Il se console. Connaissance, vigilance et patience. Ce sera pour le printemps suivant. Le jeune jardinier persévère dans sa mission. Il arrose, bêche, engraisse, paille, taille, veille, dort les yeux ouverts. Il guette le bourgeon, il guette l'intrus qui viendrait détruire le fragile bouton si précieux. Arrive le printemps, le troisième printemps. Tel un miracle, dans l'aube rosissante, il le voit, le bourgeon. Le bourgeon tant rêvé, mais il se penche et à ce moment, il voit un gros ver qui sort des entrailles de la terre. Et avant qu'il ait pu faire quoi que ce soit, avant que le ver ait avalé le bourgeon, Samvel a saisi le ver dans sa main. Alors un oiseau surgit de nulle part et il lui arrache le ver des mains. Et il va se poser sur un buisson. Et du buisson surgit un serpent noir qui avale l'oiseau et le ver en même temps. Et puis, du haut du ciel, fond un grand aigle, les ailes déployées, il emporte le serpent, avec lui l'oiseau, avec lui le ver. Le jardinier effleure de son souffle le bourgeon. Alors, le bourgeon s'ouvre et une rose. Une rose étincelante dans le soleil matinal apparaît. Samvel est émerveillé. Il reste en contemplation devant son rosier. La nouvelle, telle une brise légère, arrive jusqu'aux oreilles du roi dans son palais. Le roi descend ses grands escaliers et il traverse son jardin. Il arrive au rosier. Et là, il voit son jardinier en contemplation devant le rosier à Nahakan sur lequel brille une rose. Qu'on poste sans garde autour de ce rosier, ordonne le roi. Et toi, mon jardinier, tu resteras là et tu veilleras sur le rosier jusqu'à la fin de tes jours. Samvel sourit. Jusqu'à la fin de mes jours, majesté. Jusqu'à la fin de mes jours. Le roi a régné encore 10 ans. Il vieillissait, mais ne s'inquiétait pas. Est-ce que dans son jardin, il n'avait pas la rose de l'immortalité? Le jardinier, lui, restait aussi jeune et aussi frais que le jour où le roi l'avait engagé pour la première fois. Un soir, le roi s'est senti mourir. Alors il a appelé Samvel. Le jardinier est arrivé, tout jeune, insolemment jeune. Alors tout ça, ce n'était que mensonge, a bredouillé le roi. Mais non, seigneur, a répondu Samvel. Le maître du jardin, ce n'est pas vous. Le maître du jardin, c'est celui qui veille, celui qui soigne, celui qui patiente. Le maître du jardin, c'est moi. Dans un soupir, le roi a rendu son dernier souffle. Le jeune jardinier lui a fermé les yeux. Et puis il est sorti dans la nuit étoilée. Il a salué chaque étoile, l'une après l'autre. Il avait le temps, n'est-ce pas? Il avait tout son temps.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer. Ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La 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 la. avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, la la la.
Il y avait un jardin, Georges Moustaki, pour notre pause musicale. Alors, s'il y en a qui étaient proches de la nature, c'étaient les Amérindiens. Et chez les Indiens Cherokee, un soir, un vieil homme raconte à son petit-fils, qui est revenu très en colère après une dispute avec ses camarades, il lui raconte l'histoire des deux loups. Il lui dit: « Mon fils, à l'intérieur de chacun de nous, il y a une bataille. Une bataille entre deux loups. Là, c'est le mal. La colère, l'envie, la jalousie, le regret, l'avidité, le mensonge. Et l'autre, c'est le bien. C'est la joie, la paix, l'amour, la sérénité, la vérité. » Le petit-fils réfléchit un moment, puis il demande à son grand-père: « Mais grand-père, alors c'est lequel des deux qui gagne dans la bataille ?» Le vieil homme sourit: « Celui que tu nourris, mon fils, celui que tu nourris. » Et maintenant, un conte géorgien. Le titre géorgien, c'est « Anana ». Il y a une très belle version qui a été faite par la conteuse Muriel Bloch, qu'il a appelée « La femme jardin ». Il était une fois un jeune homme riche et beau. Il habitait dans une grande maison-château. Chaque matin, le jeune homme riche et beau descendait ce grand escalier de marbre de sa maison-château et il faisait le tour de la maison et il allait s'asseoir sur un banc face à son potager. Et là, ses idées s'envolaient. Elle caracolait sur les tomates, elle se faufilait sur les fines herbes et elle revenait dans sa tête rafraîchie et revigorée. Alors le jeune homme se levait, il faisait le tour de sa maison, il remontait son grand escalier, il allait dans son bureau s'occuper de ses affaires. Et chaque jour, il devenait un peu plus riche. Voilà qu'un matin, comme d'habitude, le jeune homme riche et beau descend son grand escalier, il fait le tour de sa maison, il s'assied sur un banc face à son potager Ses idées s'envolent, elle caracole sur les tomates, elle se faufile sur les fines herbes, elle glisse entre les rangées de fenouil et les rangées de poireaux, et là, elles viennent se heurter à un papier froissé qui repose entre les fenouilles et les poireaux. Les idées du jeune homme riche et beau reviennent dans sa tête toutes de travers. Elle se lève excédée et remonte dans son bureau, mais ce jour-là, ses pensées sont toutes de travers. Elle ne devient pas plus riche. Au contraire, il perd de l'argent. Le jardinier, lui, s'est précipité pour ramasser ce papier, mais à peine l'a-t-il effleuré de ses doigts que le papier devient une jeune fille, aux cheveux carottes, aux lèvres framboises, aux joues pêche, qui porte une robe de feuilles d'artichaut avec une ceinture de fenouil. Sous l'œil émerveillé du jardinier, la jeune fille se promène dans les allées du jardin. Le lendemain matin, le jeune homme riche et beau descend son grand escalier, fait le tour de sa maison, il va s'asseoir sur son banc. Et là, il la voit. La femme jardin, avec ses joues pêches, ses lèvres framboises, ses cheveux carottes, sa robe de feuilles d'artichaut, sa ceinture de fenouil. Le cœur du jeune homme se met à battre, il se précipite vers elle. Il sent son odeur de vétiver et de cannelle. Il se jette à ses pieds et lui dit « Tu es belle, je t'aime, comment t'appelles-tu ?» Elle le regarde et lui dit « Mon nom est Poirot. » « Poirot ? Ah ! Le jeune homme déteste les poireaux. Ah ! Il se lève, il retourne dans son palais, il s'enferme dans son bureau. Et dès le lendemain, il se marie avec une autre. » Et la femme jardin, qu'il a aimée dès le premier regard, continue à errer tristement dans les allées du jardin. Mais elle a une idée. Elle s'en va dans la montagne, elle revient avec un troupeau de biches. Et la nuit suivante, le jeune marié est à sa fenêtre, sa jeune femme est endormie dans le lit conjugal, et lui rêve devant les étoiles, à la clarté de la pleine lune. Et voit la femme jardin avec sa robe de feuilles d'artichaut, sa ceinture de fenouil. Il la voit qui traite les biches et qui, avec le lait de biche bouillant, remplit une baignoire installée entre les rangées de fenouil et les rangées de poireaux. Il la voit enlever sa robe de feuilles d'artichaut, sa ceinture de fenouil. Il voit sa peau blanche briller dans la clarté de la lune. Et il la voit plonger délicatement dans le bain de lait bouillant. Puis elle la voit sortir de la baignoire. Il voit sa peau nacrée et brillante sous la lune. Ah, il en est tout émoustillé. Ah, il réveille sa femme et lui dit « Sais-tu ce que je viens de voir dans notre jardin ?» Il raconte. « Crois-tu donc que je ne puisse en faire autant ?» lui répond sa jeune femme. Le lendemain matin, la jeune femme va dans sa salle de bain. Elle commande qu'on lui remplisse la baignoire de lait de vache bouillant. Elle se plonge dans la baignoire sans hésiter. Et la pauvre, elle devient rouge comme une écrevisse. Elle est cuite. Et lorsque son mari la retrouve, eh bien, elle est morte. Le voilà veuf. Pour se consoler, il descend son grand escalier, il fait le tour de sa maison, il va s'asseoir sur son banc face à son potager. Et là, ses idées s'envolent, elle caracole sur les tomates, elle se faufile sur les filles. Elle la voit, la femme jardin, avec ses joues pêches, ses lèvres framboises, ses cheveux carottes, sa robe de feuilles d'artichaut, sa ceinture de fenouil. Le cœur du jeune homme se met à battre, il court, il se jette à ses pieds, il sent son odeur de vétiver et de cannelle. Il lui crie « Tu es belle, je t'aime. Comment t'appelles-tu ?» La femme jardin le regarde. Elle lui dit « Tu sais, je vis dans ton jardin depuis longtemps déjà. Mon nom est Poirot. Poirot. Ah ! Le jeune homme déteste les poireaux. Il se lève et retourne dans son palais. Il s'enferme dans son bureau. Et dès le lendemain, il se marie avec une autre. Et la femme jardin qu'il aime toujours continue à errer dans les allées du jardin entre les rangées de fenouil et les rangées de poireaux sous l'œil admiratif du jardinier. Mais la nuit de pleine lune, alors que le jeune homme n'arrive pas à dormir, il est à sa fenêtre et contemple les étoiles, tandis que sa nouvelle épouse dort dans le lit conjugal. Mais là, qu'est-ce qu'elle voit ? Sur la terrasse en face de sa fenêtre, il voit la femme jardin, sous la clarté de la lune, avec sa quenouille et son fuseau. Il la voit qui file et qui chante. Il voit ses cheveux carottes qui brillent aux rayons lunaires. Puis à un moment, elle fait tomber son fuseau. Avec des petits ciseaux dorés, elle se coupe le nez, elle envoie le nez chercher le fuseau. Ouais, le nez revient, elle le remet en place. Oh, le jeune homme a tout vu. Il n'en croit pas ses yeux. Alors il réveille sa femme, il lui dit oh, « Sais-tu ce que j'ai vu ?» Il lui raconte. Et elle « Crois-tu donc que je ne puisse en faire autant ?» Et dès le lendemain, elle monte sur le toit en terrasse, en face de leur chambre, avec son fuseau et sa quenouille. Elle jette son fuseau exprès et puis avec de grands ciseaux, elle se coupe le nez et elle envoie le nez chercher le fuseau. Mais ce nez-là n'est pas très obéissant. On ne l'a jamais revu. La jeune femme s'est vidée de son sang et lorsque son mari l'a retrouvée, elle était morte. Le voilà veuf pour la seconde fois. Pour se consoler, chasser ses idées noires, il descend son grand escalier, fait le tour de sa maison, va s'asseoir sur le banc face à son potager. Et là, ses idées s'envolent, elles caracolent sur les carottes, elles se faufilent sur les fines herbes, elles se tortillent sur les tomates. Et elle la voit avec ses joues pêches, ses cheveux carottes, ses lèvres framboises, sa robe de feuilles d'artichaut, sa ceinture de fenouil. Le cœur du jeune homme se met à battre, il se précipite, il sent son odeur de vétiver et de cannelle, il se jette à ses pieds et lui dit « Tu es belle, je t'aime, comment t'appelles-tu » La femme jardin le regarde un peu tristement, elle lui dit « Je vis dans ton jardin depuis bien longtemps déjà. » Je porte une ceinture de fenouil. Mon nom est Poirot. 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 Le jeune homme tourne les talons et sort de sa maison. Il sort de son jardin. Il va trouver un paysan, il lui achète un cochon. Il lui dit « La chair est pour toi, le sang est pour moi ». Puis il retourne dans son jardin, il se barbouille de sang des pieds à la tête et il s'allonge entre la rangée de fenouil et la rangée de poireaux. Et la jeune femme jardin qui se promène dans les allées du potager, le voit. Alors elle lève les yeux au ciel, elle crie « Soleil, mon père, et lune, ma mère, faites quelque chose !» Un rayon de soleil vient frapper l'œil gauche du jeune homme. Un rayon de lune vient frapper son œil droit. Alors il ouvre les yeux. Il voit la femme jardin penchée sur lui qui lui tend la main. Et l'histoire dit que ce jour-là, elle l'a relevé, qu'ils se sont embrassés. Oh, ça a été un très long baiser. Puis le jeune homme est allé se laver. Ensuite, très longtemps ensemble, ils ont jardiné. Cette histoire est terminée. Eh bien, après ce conte géorgien, nous allons partir au monastère. Dans un monastère, souvent, il y a un frère jardinier qui s'occupe des plantes médicinales, qui fait pousser des fleurs pour fleurir la chapelle et aussi des légumes pour nourrir les moines. Dans ce monastère-là, le frère jardinier s'appelle le frère Anselme. Pour Anselme, la meilleure façon de célébrer Dieu, eh bien, c'est de faire pousser des légumes et des fleurs. Le meilleur endroit pour méditer sur la grandeur divine, c'est face à la création, devant, dans la nature, devant les arbres, les fleurs, en écoutant le chant des oiseaux. Et ce jour-là, ce matin-là, le frère Anselme quitte son monastère et s'en va la cogner sur l'épaule, couper du bois dans la forêt. C'est un beau matin de printemps. Et soudain, alors qu'il lève sa cognée sur le tronc d'un chêne, d'un jeune chêne, tout droit, il entend le chant d'un oiseau, le chant d'un pinson. Ce chant est si mélodieux que le frère ferme les yeux pour mieux écouter. Soudain, il a une sorte de vision, il voit le jardin d'Éden, un jardin parfait. Un jardin de fraîcheur, de fruits dorés, de fontaines chantantes. Le frère Anselme est en extase, il se met à genoux, toujours les yeux fermés. Il voit autour de lui ce jardin merveilleux qui se déploie, des biches qui y courent, des oiseaux, et puis, pfft, le pinson s'est envolé, le chant s'est arrêté. Frère Anselme ouvre les yeux. Dans sa main, le manche de la cognée tombe en poussière. Devant lui, le jeune chêne est maintenant un chêne énorme, à l'écorce crevassée et rugueuse, avec une frondaison qui s'étend autour de lui immense. C'est un géant de la forêt. Et autour de lui, la soire tombe. Frère Anselme est un peu troublé, tout a l'air différent. Il décide de retourner à son monastère, mais le chemin est barré par des ronces. Il doit contourner un bois. Et puis, là où il y avait un champ de seigle, eh bien maintenant, il y a une lande. Heureusement, il aperçoit la silhouette de l'abbaye au loin. Alors, il se hâte vers le couvent. Et enfin, il arrive à son abbaye, il toque à la porte. « Frère portier, ouvrez-moi, c'est frère Anselme, le jardinier !» Mais quand la porte s'ouvre, ce n'est pas le visage du portier, le visage de frère Jérôme qui est devant lui. C'est un inconnu et qui a l'air aussi surpris que lui et qui lui dit « Mais qui êtes-vous, mon frère, pour venir frapper assis à cette heure tardive à la porte de l'abbaye ?» Frère Anselme ne comprend rien. Alors, il fait ce qui le rassure, il va vers son jardin tout de suite et là, il voit que là aussi, tout est différent. Là où il avait planté des carottes, maintenant, il y a des salades. Et le jardin de plantes médicinales n'est plus au même endroit. Mais il s'assied sur un banc, complètement hébété. Et le père prieur, qui a été alerté par le portier, arrive. Mais Anselme ne le reconnaît pas. Le prieur ne le reconnaît pas non plus, d'ailleurs. Alors Anselme bredouille son histoire, qu'il est parti le matin, la cognée sur l'épaule, et qu'il y avait un pinson au champ merveilleux, le jardin d'Éden, et puis que les ronces, et comme le paysage a changé, que tout était différent, et maintenant ces moines qu'il ne connaît pas. Frère Anselme demande à aller prier dans la chapelle. Et là, il rend son dernier soupir, un sourire émerveillé sur le visage. Le père prieur fouille dans les archives du couvent et dans un vieux livre d'heures, enfin, il trouve une chronique qui relate 300 ans auparavant la disparition mystérieuse d'un frère jardinier qui serait parti un jour dans la forêt et qu'on n'aurait jamais revu depuis. Alors, la morale de cette histoire, faut-il se méfier de Dieu, des moines ou des jardiniers? Je vous laisse méditer là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle raconte en direct sur Radio Saint-Ferréol le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h.